à tous. La grande table se poursuit en août à la rencontre des artistes. À 13h50, François Sureau sera devant l'ancien hôtel Continental pour évoquer Thomas Edward Lawrence, l'écrivain aventurier. Mais avant cela, nous allons parler de romans épistolaires, de littérature et de correspondance amoureuse retrouvée, recréée. Dans son roman Nevers, S entre parenthèses peut aussi se lire Never, publié chez POL, Frédéric Berthet exhume les lettres de la valisette familiale. Lettres de Georges à sa femme Étiennette, billets doux en temps de guerre où le courrier se substitue à l'amour. Une histoire qui nous ramène à une autre correspondance amoureuse, elle aussi en temps de guerre, celle qu'Apollinaire mêla au trait de loup, son adoré, sur laquelle il posa sa poésie. Nous allons nager entre les lettres de Nevers aux côtés de la romancière Frédéric Berthet, puis nous remonterons le courant jusqu'à Apollinaire, guidé par Laurence Campa, professeur en lettres modernes à Paris 10 Nanterre et biographe d'Apollinaire. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Besserie.
Frédéric Berthet, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient parler de Nevers, sorti au mois de mai chez POL. Ce projet entre poésie et roman, je parlais de roman, c'est ce qui a marqué sur la couverture, et pourtant, on a le sentiment que c'est plutôt une entreprise poétique avec presque un système de vers qui se met en place et qui vient en lieu et place des lettres, des vraies lettres.
Alors, il y a en effet des vraies lettres, c'est important de le dire, parce que ça a été un moteur décisif pour l'écriture. Ce qui m'a intriguée, ce qui a fait intrigue pour ce livre, c'est en effet la découverte que ma grand-mère Étiennette avait conservée de façon secrète, discrète, sans en parler, une petite valisette de lettres, donc dont j'ignorais l'existence. Et ce qui m'a beaucoup troublée, c'est à la fois de pouvoir accéder à ces lettres, qui en effet rendait compte d'une correspondance amoureuse, dont des lettres écrites entre elle et son mari entre 1944 et 1948, mais plus encore peut-être le fait qu'elle ait souhaité conserver ces documents, et c'est le caractère absolument intrigant de ce geste de conservation finalement qui a remonté le récit de ce roman et fait de ces deux personnages que moi j'avais connus dans une toute autre situation des personnages de roman, mais voire deux héros et surtout une héroïne. Je me suis plus particulièrement attachée à cette femme qui a été donc délaissée par la guerre en quelque sorte. Deux mois après son mariage, son époux part, il quitte la place Lyautey de Casablanca.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a plusieurs décors qui sont mis en place, plusieurs fresques aussi historiques qui se mettent en place, puisque dans le cadre de cette Deuxième Guerre mondiale, puisque là pour le coup c'est de celle-ci dont il s'agit, il y a d'abord Casablanca.
Oui.
Comme décor, là où elle est, là où elle grandit, avec cette histoire intime un peu particulière, hein, c'est-à-dire que ce sont des époux qui n'ont pratiquement pas vécu ensemble au début de leur mariage.
Voilà, c'est ce qui fait un trick, c'est en effet à la fois le fait qu'on ait gardé beaucoup de lettres, plusieurs centaines de lettres, puisqu'à un moment, ils s'écrivent journellement. Un certain nombre de lettres sont perdues, toutes les lettres de 1943. Il ne reste pas de lettres de 1944 d'Étiennette, mais des lettres de Georges. Et à un moment, leurs deux voix sont retrouvées dans ces archives familiales à partir de 1946. Donc, la correspondance épouse à la fois les pleins et les vides de l'histoire. D'abord la libération, la campagne de France, puis la désignation pour l'Indochine. Et ces pleins et ces vides de l'histoire, ces pleins et ces vides de la correspondance, ont produit ce que vous indiquez comme étant en effet des accents poétiques, c'est-à-dire créer aussi dans la page des formes de respiration qui vont être des pleins, qui vont être des vides, qui à la fois renvoient à ces manques de l'histoire, mais aussi à ce manque d'amour de jeunes gens séparés dans l'élan de à la fois la foi de la jeunesse, la foi du mariage, mais aussi une espérance dont ils ne savent pas forcément à quoi la rimer, puisque ce ne sont pas deux lettrés, hein, contrairement à Guillaume Apollinaire qui viendra après, ce sont deux jeunes gens avec très peu d'éducation et qui en quelque sorte vont grandir, se faire grandir par l'écrit, par l'écriture.
Alors ce qui est particulier en l'occurrence dans ce roman, c'est que quand on démarre la lecture, on voit bien le matériau de base, les lettres de la grand-mère, la valisette, etc. Et pourtant, le projet d'écriture, il montre ses propres coutures. C'est-à-dire que vous expliquez, le lecteur assiste à la fabrication et à ce geste-là d'écrire, puisque vous n'utilisez pas directement les lettres. Les lettres servent de point fantomatique à votre histoire. Vous ne les reproduisez pas telles quelles.
Alors, il y a quelques moments, il y a une lettre qui est quasiment reproduite à l'identique, mais parce qu'elle était très rare et très isolée, presque dans un désert, dans une forme de silence. C'est une lettre de 1942 de mon grand-père. Malgré tout, je l'ai resserrée. Donc, en effet, j'affiche aussi, parce que j'ai cette formation d'historienne, les moments où je fabule, les moments où j'invente, les moments où je jette des ponts entre deux documents, deux traces avérées, et puis les moments où je m'appuie sur la parole de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une forme de matérialité qui se traduit aussi par des moments prose, des moments plus poétiques, des moments versifiés. Et ces différents types de matériaux d'écriture sont aussi une manière de rendre compte des différents types de documents, en effet, que j'ai trouvés. Donc il y a tout un temps où je n'ai pas de trace de l'écrit, mais où je fais l'hypothèse qu'elle occupait une très grande place dans le quotidien, puisque qu'est-ce qui fait en fait la matérialité d'un amour lorsqu'on est séparé, la matérialité d'un foyer lorsqu'il s'agit d'élever des enfants et d'avoir le souci que son mari apprenne à connaître des enfants qu'il n'a pas sous les yeux et vice-versa pour un époux d'essayer de soulager sa femme, c'est d'essayer de rendre par l'écrit une forme de quotidien, donc de très très grande matérialité. Si bien que même s'il manque des passages de lettres qui n'ont pas été retrouvés, ce qui était important pour moi, c'était de créer une forme de continuité. C'est-à-dire, mon hypothèse, c'est de faire de cette jeune femme une forme d'héroïne, une sorte d'inconnue des salons littéraires. Quelqu'un pour qui, à un moment, l'écriture lui sauve la vie. Et cette écriture, elle peut paraître anecdotique, mais en fait, elle est quelque chose de très grand, parce que ce qui lui permet à la fois de partager matériellement un espace, même si c'est sur papier, mais un espace avec un époux qui est déplacé en France, qui est déplacé à Tuttlingen en Allemagne, qui est déplacé à Saigon, qui est déplacé à Hanoï. Donc trouver une forme de matérialité et en même temps essayer de renouveler son cesse. Il faut attiser le désir, il faut avoir envie que l'autre continue de vous aimer. Donc être matériel, mais en même temps être profondément imaginative et pourquoi pas glisser des poèmes.
Alors là, on voit justement l'amplitude du projet. À travers les lettres, il y a l'idée peut-être même de rester en vie pour le soldat qui est au front et qui doit tenir. Et il y a aussi, du côté de l'épouse, cette espèce de liberté qu'elle se trouve au milieu d'une vie contraignante, familiale un peu compliquée, les enfants en bas âge, puisqu'à chaque permission, un nouvel enfant va naître. C'est un peu ça que l'on comprend. Il va y avoir finalement cette place qu'elle se trouve dans l'écriture. Alors l'écriture comme pilier, mais peut-être même comme invention, d'un couple qui n'a pas eu le temps d'exister.
Oui. Donc c'est un couple qui n'a pas le temps d'exister et en même temps qui, probablement au départ, a une rencontre suffisamment fulgurante et profonde pour que, par-delà la séparation, il y ait le désir de partager du présent, indépendamment des continents, des mers, des montagnes, des saisons aussi qui les séparent, mais probablement également le désir de préparer le retour. Parce que la correspondance vient signer la séparation, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on continue d'espérer? Et qu'est-ce que c'est que continuer d'écrire? C'est aussi continuer d'espérer et donc d'attendre. C'est la possibilité de revenir. Donc, à un moment, les lettres sont investies très concrètement comme une manière de combler la distance spatiale et aussi historique, parce qu'ils sont beaux. Partager, par exemple, tous les deux le mois de février 46, lorsqu'il s'agit de se préparer à débarquer dans le golfe du Tonkin ou de se préparer à aller fendre la glace dans le puits de Saint-Benin-des-Bois, ce n'est pas du tout le même quotidien. Et pourtant, il faut, par l'écrit, arriver à trouver la manière de faire en sorte que ça soit partageable pour qu'au retour, on se retrouve.
Alors d'ailleurs, à travers cette idée-là, c'est aussi une interrogation plus large, Nevers, sur ce que c'est qu'écrire. Écrire pour la romancière, pour le narrateur, mais aussi pour ce personnage d'Étiennette et Georges. Donc c'est une sorte de mise en abîme de ce geste-là d'écriture. D'ailleurs, il y a une vraie interrogation sur ce que c'est que écrire ou noircir du papier,
oui,
en quelque sorte.
Oui, et je pense que c'était à la fois des correspondants, par métonymie nous parlons de correspondance pour parler des lettres, mais la correspondance au départ c'est la relation écrite qui unit deux personnes qui en effet sont engagées dans un geste d'écriture. Et ils écrivaient tous deux très différemment. Elle était parfois difficilement déchiffrable. Elle écrivait très vite. Ils s'en plaignaient parfois. Lui avait une écriture extrêmement minutieuse et qui était parfois notée, pas dans ses lettres amoureuses, mais dans d'autres écrits par les gradés qui absolument voyaient comme il était un être extrêmement méticuleux. Mais en revanche, lui, ses lettres, de par des contingences matérielles, sont parfois difficilement lisibles parce que, par exemple, l'encre a bavé ou que le papier était tellement fin que le recto est surimprimé par le verso. Donc, ils avaient deux gestes d'écriture très différents. Mais on peut retrouver dans cette écriture des topos de la correspondance de guerre, c'est-à-dire parler de la façon dont l'autre nous manque, essayer de doser la place du quotidien, essayer de doser la part de désir. Il faut que l'autre continue à trouver en vous un amant, une amante. Donc différentes formes de dosage qui créent une forme de dramaturgie dans la lettre.
Avec de la jalousie, on voit bien qu'au moment où elle se met à danser avec un Italien, oui. Alors même qu'elle lui dit... Oui. Georges fait une scène par écrit.
C'est ça. Donc il y a des événements, et je pense que c'est une manière aussi ça d'être en vie. Voilà, on peut être jaloux aussi à distance, et chacun d'eux a peur de perdre l'autre. Donc il y a Georges dans une lettre qui en effet la gourmande, non pas parce qu'elle est elle a dansé, et ça revient très régulièrement, et ça c'est une forme de liberté, me semble-t-il, qu'elle s'est accordée, la liberté privée. C'était faire plus que Virginia Woolf qui disait il faut une chambre à soi pour écrire. Elle n'avait pas de chambre à elle, mais elle a créé un espace géographique mental pour avoir sa chambre à soi et pour écrire. Mais dans l'espace social, elle s'est autorisée des choses qui pouvaient être très décriées, comme en effet danser au bal avec des chevaliers alors que son mari était au fond. Et lui, ce qui le gêne, c'est pas qu'elle aille danser. Il trouve que c'est bien qu'elle reste une jeune femme.
C'est qu'elle danse avec des Italiens.
C'est ça, c'est que ce soit des prisonniers de guerre italiens, et il lui rappelle la morale. Il lui dit, attends, si je me bats contre les Allemands, là on est dans la partie libération de la France, c'est parce qu'on les a mis des alliés et c'est les Italiens. Tu fais ce que tu veux, mais pas avec des prisonniers de guerre à italiens.
Alors pour revenir sur cette question du geste d'écrire, je vous propose d'écouter une interview de Marguerite Duras avec Bernard Pivot, c'était en 1984.
L'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte là. Maintenant j'en suis sûre. Et que par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux, quelquefois.
Comment écrivez-vous? Expliquez-moi, comment ça se passe?
Je fais d'abord, je fais des feuilles où quelquefois ça reste.
Non, mais avant de vous mettre, qu'est-ce qui se passe? Le matin, l'après-midi, le soir
N'importe quand.
N'importe quand.
Quelquefois, là, à la fin, j'étais complètement eue par le livre. Hein, j'avais le sentiment que le bruit revenait lorsque je cessais d'écrire. Mais j'arrivais à travailler 10 heures par jour.
J'ai vu dans un entretien que vous ne pouvez pas écrire si vous n'avez pas fait votre lit avant. C'est vrai, ça?
Ah, c'est vrai. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Depuis que j'ai subi cette cure-là. Alors on le fait, gentiment. Mais c'est vrai qu'une chambre avec un lit défait,
ça dérange le...
Oui, il faut que ce soit en ordre derrière soi. Ouais. Comme la vaisselle dans la cuisine. C'est pas bon non plus.
Frédéric Berthet, on a l'anecdote de la vaisselle. La matérialité, elle est aussi pour le lieu d'écriture, hein, pas simplement pour le lieu sur lequel on écrit. Frédéric Berthet, outre cette anecdote, il y a la question effectivement de l'écriture que l'on souhaite atteindre. Le matériau des lettres de votre grand-mère n'est qu'une source d'inspiration. Vous allez vous décider d'en faire une écriture romanesque et poétique, avec une ponctuation aléatoire, des mises en rejet, pas de majuscules à certains moments. Donc une écriture vraiment libre et poétique. Comment est-ce que vous avez imaginé justement la structure de ce roman, hein, qui s'inscrit dans 3 théâtres, 3 lieux aussi, et avec ces diversités d'écriture?
Alors, c'est un livre que je porte depuis longtemps. Peut-être sans le savoir, je crois qu'on a tous dans nos histoires familiales, dans les récits que nous entendons, que nous attrapons parfois enfant, des choses qui sont romanesques. Il y a une partie de cette histoire que j'avais entendue par bribes, je savais très peu, mais qui était romanesque. Et donc peut-être que déjà, elle me travaillait avant que moi je la travaille. Et puis il y a eu le projet un peu plus actif d'essayer de relier ce qui m'avait interrogée, à savoir cette jeune femme qui a tout juste 20 ans, qui a deux enfants bas âge, qui est une femme très solaire, qui habite Casablanca et qui se retrouve dans l'hiver près de Nevers, dans un milieu qui la surveille, un milieu paysan villageois.
Georges l'envoie chez sa grand-mère.
Voilà, il l'envoie chez sa grand-mère. D'abord, elle quitte Casablanca parce qu'elle pense pouvoir le rejoindre, puisque la France est libérée. Et quand elle arrive enfin à Toulon et qu'il vient la chercher, il lui dit « Écoute, j'ai reçu ma feuille de route, je suis désignée pour l'Indochine ». Donc, elle peut pas repartir tout de suite à Casablanca. Donc, il la confie à quelqu'un dont il est extrêmement proche. Il a toute confiance, qui est donc sa propre grand-mère à lui. Et donc, elle arrive chez des gens qu'elle ne connaît pas, dont la culture est radicalement différente. Et donc, c'est dans ces 30 mois qu'elle passe tout près de Nevers à Saint-Benin-des-Bois, qu'elle écrit à son époux, qui lui est dans ce qui, au début, n'est pas la guerre d'Indochine, qui est une forme, en fait, de course que font les Français. En tout cas, c'est présenté comme ça aux soldats pour que ça soit pas simplement les Britanniques et les Chinois qui évacuent les Japonais. Et puis finalement, elle y reste 30 mois.
Mais vous, sur l'écriture, Frédéric Berthet, pour revenir à ce que vient de dire Marguerite Duras, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Duras dit se retrouver sur la crête des mots. Elle cherchait cette écriture courante.
Vous
partez d'une écriture courante, on pourrait dire en tout cas d'une écriture plus quotidienne, plus réelle, qui est celle des lettres, pour aller vers une écriture poétique avec le même matériau.
Alors, cette histoire, je la portais sans forcément le savoir. Et quand j'ai eu le projet d'écrire sur cette jeune femme qui habitait Saint-Benin-des-Bois et qui, dont mon espace imaginaire est aussi très porté par les imaginaires de cinéma et notamment par un film de Marguerite Duras, enfin qui a été écrit par Marguerite Duras et réalisé par Alain Resnais en 1959, Hiroshima, Mon amour. J'étais très intriguée par les correspondances géographiques entre les espaces qu'avaient sillonné mes grands-parents. Ma grand-mère allait à Nevers pour prendre des renseignements sur l'Indochine. Mon grand-père a été aussi un élève de l'école militaire d'Autun où des passages d'Hiroshima Mon amour ont été tournés. Donc il y avait des formes de correspondance que j'avais envie de travailler. Mais quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte qu'avant de débuter par l'histoire Saint-Benin-des-Bois, Nevers, Marguerite Duras, René, il fallait que je commence un tout petit peu avant, à Casablanca. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à coucher les premiers mots sur Casablanca que j'étais en effet embarquée dans un espace que probablement je portais et qui a été bâti par l'écriture. Donc il y avait à la fois un projet, mais c'est vraiment la matérialité de l'écriture qui l'a reconfiguré et qui m'a probablement aussi fait retrouver des émotions de corps que peut-être cette héroïne, cette jeune Étiennette avait aussi traversé en tant que grande nageuse dans l'océan Atlantique. Donc le fait d'écrire, en fait, a réoxygéné à la fois des souvenirs, mais probablement aussi des souvenirs de lecture. Et je me suis trouvée dans la situation, puisque vous parlez de courir. C'est-à-dire que je suivais mes personnages, puis hop, ben, ils m'échappaient parce que je croyais qu'ils allaient se retrouver, mais non. Une feuille de route arrivait, genre je passais en Algérie, ils allaient se retrouver à Toulon, mais non. Une feuille de route les emmenait.
C'est donc une histoire de tragédie, une histoire presque théâtrale, c'est un amour empêché, sans cesse empêché, alors même que des enfants naissent.
Voilà. Mais je pense que c'était aussi la façon dont j'avais envie de créer ces héros de l'ordinaire, vous voyez, tous ces gens qui n'affleurent pas forcément dans les livres d'histoire, qui ne se convoquent pas directement les grands moments des signatures des traités de paix. Et pourtant, leur vie a été complètement modelée de l'extérieur par l'histoire, par cette forme de tragédie, bien que la tragédie, dans leur cas, est moindre, puisque non seulement ils reviennent vivants, on va dire intègres physiquement, psychiquement, je ne sais pas s'ils sont revenus intègres, ni l'un ni l'autre de cet épisode-là, qui, je pense, est de l'ordre d'un très grand traumatisme, et surtout à une période où, comme aujourd'hui, contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas de débriefing, il n'y a pas de traitement post-traumatique. Donc, qui va s'occuper, en fait, de ce qu'ont pu vivre de jeunes soldats entre 19 et 25 ans, qui reviennent en France s'occuper d'une famille dans un HLM.
Sans parler, et ça apparaît dans l'écriture, Frédéric Berthet, de la différence entre cet amour né sur le papier, ce qui a pu se dire, s'écrire, et ce qui se vit au retour.
Oui. Alors, je vais pas raconter non plus tout le livre.
Non, non, mais c'est comme si c'était une autre personne qui apparaissait. Peut-être on peut vous entendre
en lire un extrait, s'il vous plaît.
Oui. Qu'est-ce qui nous fait garder, jeter ou perdre ? Rien de ce que vous avez écrit à Georges pendant la campagne de France n'est revenu vers vous pour réintégrer le logis, la valisette noire et enfin le placard. Vous avez été en verve pourtant. Le 27 mars 45, à la veille des préparatifs du voyage pour sa première permission, votre mari compte les jours qui se sont écoulés et les lettres reçues. C'est le nombre de tes lettres qui est le plus grand, conclut-il. Passe les mois, défile les lettres, je consulte la valisette. Cajole ce petit tombeau qui tient sur mes genoux et un jour de 46, vous êtes là. Oui. Il y a une lettre de vous que Georges a rapportée de la guerre, et puis encore une autre le jour suivant et une autre. Vous vous faites entendre depuis les oubliettes. Sous mes yeux, cette écriture bien à vous, encre violette. Grande feuille brunie à petits carreaux pliés en quatre. Vous écrivez vite, très vite. Ça pulse. Pas si facile de vous suivre, de vous lire. Dans cette lettre de 46, vous recoupiez deux poèmes approximatifs, trouvés ici ou là. L'un commence par « Viens, prends ma main sous le bois proche, il y a des fleurs dans la mousse qui meurent de n'être pas cueillies. » Et l'autre par « Ton souvenir est une voile blanche sur le bleu du ciel qui penche. » Vous brossez également un joli tableau du paysage qui vous entoure, avec cette gelée blanche du matin autour de l'abreuvoir et les corbeaux qu'il a tachés dans le champ près du Moulin Neuf. Ben oui, vous êtes inspiré et poète à vos heures, mais vous n'avez pas le temps d'en mettre plus long, il faut coucher les petits. Je prends mon attente en patience. Je suis moins cafardeuse que ces deux mois derniers, mais je suis quand même bien inquiète, mon chéri, je n'ai pas eu de nouvelles hier. Je souhaite que tu sois en bonne santé. As-tu rejoint ta compagnie ? Comment vont tes camarades ? Y a-t-il eu de nouveaux tués, des blessés ? Je t'aime. Sois fort et courageux, je t'embrasse de tout mon cœur. Un jour donc, la lettre qui s'écrit n'est pas de la même nature que les autres. Un peu de futur la fige, car c'est à partir de ce jour-là, de ces feuillets en patchwork de poèmes, qu'il me restera quelque chose de plus tangible pour vous entendre. La lettre, trace fragile, plume coriace, porte de quoi résister au temps qui passe, pour qu'à mon tour je tienne un jour en main ce bout de passé qui est aussi un peu le mien. La neige vient de tomber sur Saint-Benin-des-Bois et cette lettre du 1er janvier 46 partira au matin, destination Saïgon. Car depuis plusieurs mois, vous avez quitté Casa dans l'idée de rejoindre Georges en France, mais il n'est plus là. Et vous n'êtes plus très sûr d'être au meilleur endroit pour attendre son retour.
Merci d'avoir accepté de lire Frédéric Berthet. Quelque chose vient immédiatement à l'oreille, c'est ce vous, ce narrateur qui se promène entre les lignes de cette lettre, hein, dont il donne des éléments sans la retranscrire. Et qu'est-ce que c'est que ce vous adressé ? Est-ce que c'est une voix intérieure ? Est-ce que c'est un vous qui s'adresse à Étiennette ? C'est une question qui m'a interrogée tout le livre.
Oui, alors je ne peux vous donner que des réponses qui sont des reconstructions.
Mais
a posteriori,
choix narratif, il y a quand même eu un choix narratif.
Il y a eu un choix narratif, mais il me semble qu'il s'est imposé à moi, c'est-à-dire que j'avais envie de m'adresser. Alors je n'écris pas une lettre, mais malgré tout, c'est un texte qui est adressé. Ça ne pouvait pas être un tu qui était beaucoup trop proche. Dans la réalité, je tutoyais ma grand-mère. C'était un vous parce que je n'ai pas connu cette femme dont je parle. Je ne sais pas qui elle était à 20 ans. Donc ce vous était une manière de matérialiser la distance.
C'est-à-dire les deux, la grand-mère connue, la grand-mère,
absolument, la grand-mère
découverte
connue,
par les lettres.
La grand-mère découverte par les lettres, celle dont je savais qu'elle aimait en tout cas la littérature, puisque très tardivement, elle avait passé des diplômes pour être bibliothécaire et qu'elle aimait beaucoup en fait désherber, nous expliquait-elle, le moment du désherbage dans les bibliothèques. Et elle nous transmettait, à ma sœur, à moi, à ses autres petits-enfants, des ouvrages, notamment de la poésie. Donc je savais que la littérature était importante dans sa vie, mais je ne mesurait pas à quel point elle-même avait écrit. Donc ce vous était une manière de matérialiser la distance, de la respecter aussi, de dire que si je pouvais écrire sur cette histoire, malgré tout, c'était un geste d'écriture de ma part et qu'à aucun moment il s'agit pour moi d'assigner ce qu'elle a été, qui a été mon grand-père à un endroit, eux seuls le savent. Donc ce vous, c'est ça, c'est à la fois une manière d'être relié, une adresse, une manière d'être distancié, mais aussi une manière de flotter. C'est-à-dire que vous, parfois, ça peut être aussi eux deux. C'est du pluriel, le vous.
Et en même temps, on a le sentiment parfois que de l'extérieur, il y a comme une, comme un vous d'enquête aussi. Hein. Oui, on l'interroge presque.
Absolument.
Il y a presque une sorte d'interrogatoire secret.
Absolument. Peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui a laissé des traces. Donc on se pose toujours la question, voilà pourquoi on peut déchirer, vous voyez, des lettres. On peut déchirer des courriers administratifs, on peut les perdre aussi. Et c'est vrai que quand on trouve des choses, on ne sait jamais ce qui relève de l'intentionnalité, du hasard. Et je pense que c'est quelqu'un qui a laissé des traces pour qu'on enquête. Et c'est plus que je le pense, je le sais. Y compris parce qu'il y a eu des documents où elle disait, si ça ne vous intéressait pas, déposez-les aux archives nationales.
Il fallait les garder.
Voilà, donc elle avait un rapport et peut-être à l'espoir de ce que ça allait pouvoir devenir.
Alors je vous propose, puisqu'on parle de ce vous, d'écouter une histoire de tu. Une histoire de tu racontée par Pérec en 1970 dans Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. Il était au micro de Moussa Abadi.
C'est une deuxième personne du singulier que je ne sais pas si on a toujours très bien compris pourquoi c'était la deuxième personne du singulier.
Le tu, c'est un peu vous, parfois.
Le tu, c'est un tu de journal intime. Le tu vient très exactement de...
Mais c'est l'homme qui s'adresse à son miroir.
De l'épigraphe, oui.
C'est ça.
C'est l'homme qui écrit dans son journal. Le tu vient de l'épigraphe qui est de Kafka, qui est « Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison, reste à ta table et attends, n'attends même pas. » Non, reste à ta table et écoute, n'écoute même pas, attends seulement. Le monde viendra s'offrir à toi comme un serpent, je sais plus, j'ai oublié. Enfin, il se roulera devant toi, il ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est ce tu-là, enfin, cette espèce de forme très directe, de s'adresser à la fois au lecteur, à la fois à soi-même. Et d'une certaine manière, le personnage est complètement dédoublé. À chaque instant, on a cette possibilité. J'avais cette impression que c'était moi qui me parlais. C'est-à-dire, le tu est une espèce de je, tout le temps. Et en même temps, il est l'impression que le lecteur allait le recevoir comme étant à la fois moi et lui. Il y avait une espèce de très grande sympathie entre le personnage, le lecteur et moi-même.
Frédéric Berthet, est-ce que vous vous sentez proche de ce que raconte Pérec? Alors si le tu est dédoublé, alors le vous, n'en parlons même pas.
Très proche, et je cite Pérec, non pas ce qu'il dit là, mais d'autres choses qu'il dit sur justement la façon dont l'écriture creuse un espace dans le quotidien à plusieurs reprises. Ce vous, je pense qu'il fait partie des n'est pas épuisable, comme le titre Nevers avec ce S entre parenthèses n'est pas épuisable. Il y a plusieurs sens possibles, mais je pense qu'une autre manière de dire, de penser le vous dans ce texte, c'est aussi une manière de penser peut-être à d'autres jeunes gens qui ont été embarqués dans une histoire semblable, la multitude aussi de ceux qui ne sont pas revenus. Ce livre est aussi ponctué en fait de jeunes camarades de Georges qui étaient comme lui pupilles de la nation et qui ne sont pas revenus. Et donc ce vous est aussi une manière de s'adresser à, voilà, à ceux qui sont tombés pour ces différents actes de libération et à ceux qui ne sont peut-être revenus mais qui n'ont pas créé cette matérialité auquel on peut avoir accès ou ceux qui n'ont pas trouvé aussi peut-être un relais. Moi je sais que ma grand-mère m'a désigné comme relais en un sens en me confiant ses lettres. Donc ce vous, c'est une manière d'embrasser beaucoup de monde, à la fois ces jeunes gens de cette épopée entre 43 et 48. C'est aussi une manière de désigner d'autres femmes qui ont aimé de travers et qui ont été à un moment condamnées, isolées, cette jeune Étiennette, mais aussi le personnage principal du film d'Alain René, Hiroshima, mon amour. Et puis aussi ce vous, de la même manière que tu es un jeu, vous c'est aussi un jeu. Donc c'est des questions que je me suis posées. Qu'est-ce que c'est d'écrire? Depuis combien de temps j'écris? Qu'est-ce qui fait de moi un écrivain?
Alors sur la question de l'écriture, Pérec était égrené effectivement dans le livre à travers d'autres références. Alors écrire, peut-être la première référence, c'est écrire de Pérec, ça vient d'espace, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Vous dites que la valisette est un tombeau de ses lettres, elle est exhumée par ce geste-là d'écriture, le vôtre, mais aussi égrené de cinéma. Alors c'est votre passion à vous, et il y a Casablanca qui apparaît en filigrane, Hiroshima mon amour, et ces images-là, il y a même des images dans le livre, trois images.
Oui.
Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots de cette manière dont le livre est aussi entouré,
oui,
d'autres fantômes du cinéma et de la littérature.
Oui, donc ce sont...
D'autres histoires de guerre, d'ailleurs.
C'est vrai, vous avez raison. Des histoires de guerre, Donc le film Casablanca de Michael Curtis est un film qui est lié à une histoire que l'on trouve dans le livre et qu'ont traversé mes grands-parents, à savoir la position des Américains, qui à un moment aussi en novembre 42 vont débarquer à Casablanca avec une forme de panique en fait dans les rangs de l'armée française dans lesquels était mon grand-père. Donc il y a des films de fiction qui ont bâti, donc y compris pour le film de Michael Curtis, donc une forme de propagande, une manière de positionner les États-Unis dans la guerre. Et ces films sont des matériaux qui sont aussi partageables. Donc à certains moments, les jeunes... ils ne vont pas parler de Casablanca parce que ce film, ils ne peuvent pas le voir. Il n'est pas du tout diffusé donc à Casablanca pendant la guerre. Mais ils vont avoir une forme de matérialité pour partager des choses. Et moi, ce que j'ai partagé avec mes personnages, c'est des moments où justement certains films pouvaient faire image. Donc, à part le film de Michael Curtis, celui « Les parapluies de Cherbourg », cette histoire de cette jeune Geneviève abandonnée. Et pour moi, une des scènes les plus poignantes dans « Les parapluies de Cherbourg », c'est en effet le moment où la mère en fait de Geneviève la tourmente en lui disant mais arrête d'attendre cet homme qui t'a oublié parce qu'il ne t'écrit pas. Et dans le livre, je montre comment en fait l'attente, parfois quand on n'écrit pas, c'est pas parce qu'on oublie, c'est que matériellement on ne peut pas. Et en particulier entre novembre 45 et janvier 46, les jeunes soldats qui ont été désignés pour l'Indochine et qui étaient à Saïgon ont été privés de courrier et ça crée une forme de démoralisation intense. Donc ces films, par leur fulgurance, le film de Demy, de Curtis, d'Alain René, arrivent à saisir sur un mode très sublimé, comme toute forme artistique, des choses extrêmement profondes avec un trait qui m'ont semblé correspondre et qui à certains moments me permettait moi aussi de retrouver mes propres références. S'ils avaient les leurs, à l'école on apprenait à versifier, à faire des vers en 12 pieds, donc ils se corrigent dans leurs lettres. Moi j'ai pas appris à faire des vers en 12 pieds, mais j'ai une forme de matérialité artistique que j'avais envie de partager aussi avec eux, avec ces films.
Merci beaucoup Frédéric Berthet d'être venu avec nous aujourd'hui. Votre ouvrage s'intitule Nevers, il est paru chez POL et disponible en librairie depuis le mois de mai. Puisqu'on a évoqué Casablanca, on va découvrir cette chanson de I Have a Tribe, Casablanca, qui reprend une des citation du film.
I've not been so wild in years, but if you set it up for me, I'll convince you that it's fine. Of all the bars in all the world, all the head and all the girls, this resides inside my mind. I know you heard. I fell apart. They're only words to trick your heart. Here's looking at you, kid. Here's looking at you, kid. Here's to everything we did. Here's looking at you, kid.
I have a tribe, Casablanca. Et la grande table d'été continue en compagnie de Laurence Campa, professeur en lettres modernes à Paris 10 Nanterre. Bonjour.
Bonjour Élise.
Alors quelques mots pour aller sur une autre correspondance cette fois-ci, autre correspondance de guerre, alors correspondance de guerre de 14 cette fois-ci, celle d'Apollinaire et de Lou. Peut-être qu'on pourrait, Laurence Campa, commencer par faire un point sur ce qu'est en littérature le genre épistolaire et le sous-genre épistolaire de guerre, puisque là, c'est des lettres d'amour, d'un amour relativement unilatéral à ses débuts, en tout cas.
Oui, il y a aussi le sous-genre de la correspondance amoureuse.
Absolument.
Qui est un grand classique aussi. En fait, ce qui se passe en 14, c'est que les hommes et les femmes sont séparés, si je prends ce genre de configuration, on va dire. Et il y a la franchise postale. Ça veut dire qu'en fait, on peut envoyer des lettres au front et envoyer des lettres du front sans payer. Et donc là, en fait, il s'est échangé entre 1914 et 1918 des millions de lettres. Tout le monde avait reçu une éducation minimale, tout le monde savait lire et écrire. Et donc, en fait, tout le monde s'est mis à écrire pour donner des nouvelles, pour prendre des nouvelles. Et en fait, la correspondance d'Apollinaire pendant la guerre reflète finalement ce qui se passe à une échelle nationale, on va dire.
Alors, Guillaume Apollinaire, il est engagé volontaire ?
Il est engagé volontaire. La correspondance avec Lou commence un peu avant. Il n'est pas encore engagé. Il s'engage de manière... Enfin, il cherche à s'engager dès le mois d'août 14. Parce qu'en fait, on permet aux étrangers qui résident en France, s'ils sont au service de la France, de voir leur naturalisation accélérée.
Parce que lui, il est d'origine polonaise.
Il est d'origine polonaise. En fait, il est un apatride. Il est né à Rome. Il est d'origine polonaise, mais la Pologne n'existe plus. Et donc, il est issu d'une famille de hobereaux polonais russifiés, puisque dans une partie de la Pologne qui appartient à la Russie. Et puis, il vit en France depuis l'âge de 7 ans, à peu près. Et donc, il n'est pas français, mais il n'est pas plus italien que polonais, que russe.
Donc, ça aurait été là son objectif, la naturalisation, d'une certaine manière, Laurence Campa ?
Son objectif à l'entrée en guerre,
oui,
ça fait partie...
aussi son patriotisme.
Oui, ça fait... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il a quand même choisi la France et d'écrire en langue française, parce qu'il a appris à écrire et à lire en italien. Et il parle français ou italien avec sa mère. Parfois, il peut entendre aussi d'autres langues. Il a fait un peu d'allemand, il parle un petit peu anglais. Mais il a choisi la langue française comme langue de poète, comme langue poétique. Et puis, alors qu'il s'appelle Wilhelm de Kostrowitski, qui est un nom absolument imprononçable, il choisit un pseudonyme à consonance latine, Guillaume Apollinaire. Et il vit en France, il vit à Paris, il se sent, sinon français, du moins, il a épousé la cause française. Donc quand la guerre éclate, il a envie de participer à l'action collective, il pense qu'il est nécessaire de défendre le pays qu'il a accueilli. Et puis, en effet, il demande sa naturalisation. Il y avait déjà songé avant pour une sombre histoire de vol de statuettes au Louvre en 1911, mais on ne va pas tout raconter.
On ne va pas tout raconter, on ne va pas revenir là-dessus.
On n'aura pas le temps.
Ce sur quoi on pourrait revenir, en revanche, c'est la rencontre avec Lou qui se fait dans la région de Nice, lors d'un déjeuner, je crois.
Alors, justement, en fait, il demande son engagement volontaire en août, mais on ne lui donne pas tout de suite, parce qu'il y a énormément de demandes d'étrangers, justement. Et donc, il descend à Nice avec un ami, et là, il retrouve une petite société de gens qui ont fui Paris, qui était non loin du front. Et alors, il rencontre cette femme dans un restaurant, pour commencer, et puis il la retrouve chez le commandant du port, chez qui on fume l'opium. Et donc, ils sont, comme on disait à l'époque, voisins de natte. Et donc, il tombe amoureux d'elle immédiatement parce que c'est une femme extrêmement séduisante, extrêmement libre, qui n'a peur de rien. Et qui, en plus,
elle deviendra aviatrice d'ailleurs. Hein. Elle va avoir une carrière étonnante.
Oui, alors je ne sais pas très bien en fait jusqu'où elle fait de l'aviation, mais en tout cas, oui,
ça fait partie.
On a des photos d'elle. On la voit en tout cas dans un avion à terre. Néanmoins, mais c'est une femme qui fait du jogging, qui ne porte pas de corset, donc on voit très bien ses formes sous ses vêtements, qui va mettre des pantalons très très tôt, qui a beaucoup d'amants et qui n'hésite pas à aller rejoindre un de ses amants de cœur non loin du front, alors pas sous les bombes non plus, mais enfin disons que voilà, c'est un peu à l'époque on pouvait éventuellement appeler une aventurière, mais en même temps c'est une aristocrate et qui n'oublie jamais justement d'où elle vient. Et donc je crois qu'il est séduit en fait par le personnage.
En même temps, ce personnage-là de Lou devient une sorte de projection littéraire, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette correspondance-là, mais dès le départ du projet, il y a cette idée sur laquelle elle va servir à archiver les lettres, elle va servir aussi d'inspiration aux lettres. Il y a quelque chose du projet littéraire qui dépasse largement Lou, en tout cas en tant que personne.
Oui, chez Apollinaire, de toute façon, il y a toujours un horizon, de publication, de diffusion. Enfin, il est poète avant toute chose. Il est poète et amoureux. Dès qu'il la rencontre, en fait, enfin très rapidement, elle s'appelle Louise de Coligny-Châtillon. C'est une comtesse. Ses proches l'appellent Loulou, ce qui est assez mignon. Mais en fait, lui, il va la rebaptiser tout de suite. Donc, avant même d'avoir l'idée de que sa correspondance puisse devenir un livre, déjà, il en fait un personnage. Il l'appelle Lou. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, aujourd'hui, on met beaucoup de choses dans ce Lou. Parce que c'est comme avoir peur du loup, c'est le petit loup. Quand on prononce le mot loup, c'est comme si on avance la bouche, comme ça, on ouvre les lèvres, comme si on donnait un baiser. Et tout est déjà dans ce nom, en fait. Et après leur séparation, en mars 1915, il lui explique en effet que finalement il va lui écrire une double correspondance, une correspondance intime et une correspondance amoureuse publique en quelque sorte. Et on sait depuis qu'un certain nombre de ses lettres ont été publiées récemment par Pierre Kayser, en fait elle se réécrit. Elle dit non, tu ne vas pas divulguer notre secret. Il n'est pas question que nos lettres deviennent publiques.
Donc, outre la question de la correspondance, il y a le double projet littéraire qui arrive assez rapidement dans la correspondance.
Oui, et qui s'arrête aussi tout aussi rapidement. En fait, il ne tient pas le défi et il va utiliser un certain nombre de poèmes qu'il lui écrit dans des recueils qu'il va publier ultérieurement, l'un en 1915 et l'autre en 1918, Calligramme. Mais en fait, les lettres resteront secrètes. Jusque dans les années 50.
Alors il faut peut-être revenir sur la forme de ce qui a pu être publié comme les lettres à Lou, Laurence Compas. Il y a les lettres à proprement parler et les poèmes. Et parfois en fait, les deux se croisaient.
Il y a des lettres qui sont... Alors parfois il y a des poèmes qui viennent seuls. Hein, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce que elles servaient un petit peu de réceptacle. Il a écrit par exemple plusieurs poèmes qui ne lui sont pas adressés directement, mais dont il envoie différentes versions à différentes personnes pour pouvoir les sauver du front. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un soldat de la guerre de 14 n'a que son sac et sa cantine. Et donc toutes ces lettres, et d'ailleurs quand les témoins le racontent, quand il y avait des assauts et qu'ils partaient avec leur sac et que malheureusement ils se faisaient tuer et qu'il y avait des explosions, on voyait voler les lettres sur le champ de bataille.
On va commencer peut-être par en écouter une de lettres, lue par Chouchane Djargaillan. Lettre numéro 1, Nice, 28 septembre 1914.
Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de jeûne à vous l'écrire. Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice, où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient tant troublé que je m'en étais allée, aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait. C'est ce regard-là que je revois partout, plutôt que vos yeux de cette nuit dont mon souvenir retrouve surtout la forme et non le regard. De cette nuit bénie, j'ai avant tout gardé devant les yeux le souvenir de l'arc tendu d'une bouche entrouverte de petite fille. Une bouche fraîche et rieuse, proférant les choses les plus raisonnables et les plus spirituelles avec un son de voix si enchanteur qu'avec l'effroi, le regret où nous jettent les souhaits impossibles, je songeais qu'auprès d'une Louise comme vous, je n'eusse voulu être rien autre que le taciturne. Puissé-je encore toutefois entendre une voix dont le charme cause de si merveilleuses illusions. 24 heures se sont à peine écoulées depuis cet événement que déjà l'amour m'abaisse et m'exalte tour à tour si bas et si haut que je me demande si j'ai vraiment aimé jusqu'ici. Et je vous aime, avec un frisson si délicieusement pur que chaque fois que je me figure votre sourire, votre voix, votre regard tendre et moqueur, il me semble que, dussé-je ne plus vous revoir en personne, votre chère apparition liée à mon cerveau m'accompagnera désormais sans cesse. Ainsi que vous pouvez voir, j'ai pris là, mais sans le vouloir, des précautions de désespérer. car après une minute vertigineuse d'espoir, je n'espère plus rien. Sinon que vous permettiez à un poète qui vous aime plus que la vie de vous élire pour sa dame. Et ce dire, ma voisine d'hier soir, dont je baise les adorables mains, votre serviteur passionné, Guillaume Apollinaire.
Laurence Campa, dans cette très belle lettre, on voit que c'est le portrait de Lou qui est fait, le portrait de Lou avant même que n'arrive l'évocation de la guerre, qui arrivera un peu plus tard dans le recueil. Et on voit que le projet est à la fois l'amour de Lou, mais aussi le corps de Lou.
Ah oui, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce qui nous fascine véritablement dans cette correspondance, c'est la puissance de la parole, la puissance d'évocation et le fait que, oui, on peut dire que la parole se substitue au geste, à la caresse, mais pas que. Dans le cas d'Apollinaire, il ne s'agit pas simplement de compenser une absence, il s'agit de susciter une présence. Ça change tout. Et c'est-à-dire qu'en fait, dans cette correspondance amoureuse, mais c'est pas la seule d'ailleurs, par exemple, un poète comme Jo Bousquet a très bien su justement susciter des mirages de cet ordre-là, la parole a un pouvoir érotique et un pouvoir sensuel, on va dire, de façon plus large, particulier, et il entre pleinement dans le jeu amoureux. Ce n'est pas simplement une substitution. C'est un instrument, comme un instrument de musique, c'est une partie prenante. Et je trouve que Chouchane l'a très bien évoqué, cette espèce de tension qu'il y a dans les mots, qui se projette sur l'autre et qui crée une forme de présence très charnelle, en fait, de l'autre, et du désir, en fait. C'est une matérialisation du désir.
Alors, on voit qu'il y a bien sûr la quête poétique, mais il y a aussi la survie nécessaire, peut-être en temps de guerre aussi, la bulle poétique qu'il crée, qui devient réelle, qui devient le mirage que vous racontez, Laurence Campa. Il y a cet élan vital quand même, c'est Héros, c'est Thanatos, d'une certaine manière.
Oui, complètement. En plus, là, vous avez tout à fait raison de parler d'Héros et Thanatos, parce que c'est absolument comme ça que ça se passe. Alors, dans la lettre qu'on vient d'écouter, il n'est pas encore parti, en fait. Ils sont encore proches l'un de l'autre. Il va partir en avril 1915, et la première chose qu'il va faire, c'est lui écrire pour lui donner ses impressions.
Ah oui, on va écouter ça aussi, hein, lu par Jean-Louis Trintignant, une lettre Marmelon le Grand, c'est le 6 avril 1915.
Malou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui, près de nos canons, ont été piochées. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où, dans mon manteau couleur d'horizon, je descendrai tandis qu'éclatent les marmites pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Montmelon le Petit. Je suis arrivé gai, comme j'étais parti. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. Je suis en ce moment parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Et nous vivrons ainsi sur les premières lignes. J'y chanterai tes bras comme l'école des cygnes. J'y chanterai tes seins d'une déesse digne. Le lilas va fleurir. Je chanterai tes yeux où danse tout un cœur d'angelots gracieux. Le lilas va fleurir. En printemps sérieux, mon cœur flambe pour toi comme une cathédrale, et de l'immense amour sonne la générale. Pauvre cœur, pauvre amour, daigne écouter le râle qui monte de ma vie à ta grande beauté. Je t'envoie un obus plein de fidélité, et que t'atteigne, ô loup, mon baiser éclaté.
Laurence Campa, on entend dans cette lettre l'arrivée aussi de ce vocabulaire de la guerre, de ces armes qui deviennent des mots poétiques. Et à travers cela, il y a une véritable résistance du poète qui intègre les obus à ce langage du corps de loup.
L'amour, la poésie sont une forme de résistance, une forme de survie. Et en fait, il détourne tout ce qui est destructeur, les armes, la souffrance, la blessure, les ruines, de leur force létale. Donc en fait, c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'il utilise le même vocabulaire pour parler d'amour et pour parler de guerre, mais il essaie de justement de conjurer la puissance destructrice de la guerre en faisant un chant d'amour.
Merci Laurence Campa d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je renvoie nos auditeurs aux lettres à Lou, bien sûr, et à Madeleine, mais aussi à votre biographie d'Apollinaire, publiée à la NRF. Tout de suite, la fiction imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD en partenariat avec le Théâtre de la Ville, en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, l'oreille intérieure d'Héloïse Mercier.
L'oreille intérieure, une fiction écrite par Héloïse Mercier.
Tu viens de coucher ?
Ouais.
C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir un truc à l'oreille là. Ça chauffe.
Fais voir. Je vois rien.
Ça doit être mes boucles d'oreilles. J'éteins ?
Oui. Allez, viens me coucher.
Ça a commencé comme ça. Par une chose anodine. Presque imperceptible. Par le lobe d'une oreille qui tout à coup s'échauffe et porte notre attention à hauteur d'un détail. Ça a commencé hier, et on ne s'en doutait pas. Hier, le jour d'avant, celui où l'on apprend qu'il faudra désormais rester à l'intérieur, fermer les écoutilles et se cloîtrer dedans, se contenter d'entendre le dehors à travers ses échos. Hier, le jour d'avant, dans un soudain répit de nos rythmes effrénés, un espace laissé au silence pour pouvoir s'écouter.
Alors pourquoi vous contenter d'un café moyen ? Essayez plutôt Nescafé Dolce Gusto, l'extraordinaire.
Tu peux baisser un peu ?
Baisser ?
C'est vachement fort.
C'est les pubs. Ils augmentent toujours le volume pendant les pubs. Tu veux du café ?
Oui, merci.
Faut que je me mette sur l'article. Je dois l'envoyer avant vendredi à la rédaction.
Ah oui, c'est l'album de métal, c'est ça ?
Oui, je sais que tu es ravie. Je mettrai le casque. T'inquiète pas.
Oui, s'il te plaît. Il va falloir qu'on s'organise, là. Assigné à résidence pour pouvoir travailler sans se marcher dessus.
Tu t'installes dans le salon ?
Si ça te va.
Très bien. Allez, j'attaque mon papier.
On se retrouve pour déjeuner ? Rendez-vous dans la cuisine, à 13h.
Pour l'instant, il est 13h. À table !
Louise ?
Dans l'actualité aujourd'hui, peut-il encore durcir les mesures de confinement ? Conseil de défense à l'Elysée, local...
Ah, super, t'as tout préparé.
Promenade des Anglais fermée à Nice. Le maire envisage un couvre-feu, c'est aussi...
Par contre, tu veux bien éteindre la radio, s'il te plaît ?
Le Rassemblement national pour tout le pays. Question...
Pour une fois qu'on peut prendre le temps de mettre les petits plats dans les grands.
Tu entends comme c'est calme. Qu'est-ce que ça fait du bien, ce silence. Le chantier s'est enfin arrêté au bout de la rue.
Ah ouais, t'as raison, j'avais pas fait attention.
On entend les oiseaux. Et il y a même des chats qui investissent le chantier depuis quelques jours.
Tu les as vus ?
Non, je les ai entendus.
De la fenêtre ?
Ouais, de la fenêtre. Ou alors j'ai rêvé.
Et ton oreille, ça va mieux ?
Toujours pareil, ça enfle. J'ai mis de la glace, ça va passer. Je me suis peut-être fait piquer par un moustique.
Ouais, sûrement.
De mon oreille brûlante me parviennent des sons du dehors jamais entendus. Le bruissement du monde, des choses infimes, les animaux et les insectes, le frémissement des arbres. Je les voyais soudain à travers leurs murmures. La ville au repos révélait ses recoins, ces choses qui d'habitude n'attirent pas l'attention. Le petit, le minuscule.
Tu m'as fait peur.
Pardon, je venais voir si t'avais ton casque.
Oui, tu vois bien.
C'est bizarre, j'entends ce que t'écoutes.
Et tu détestes, c'est ça?
Je suis pas une grande fan, mais ça tu le sais. Mais c'est surtout que je l'entends fort, tu viens de le mettre ton casque là.
Bah non, je l'ai depuis le début.
Ok. Pardon, ça doit être mon oreille, elle me fait mal encore.
Message reçu, je baisse le volume.
Merci.
J'entends tout. Le moindre de ces bruits. Tout résonne plus fort à l'intérieur et me déconcentre d'une façon délicieuse. Cette attention subite à tout ce qu'il fait me sort de moi-même pour entrer dans sa peau. L'impression inédite de faire l'amour, par les oreilles, et jour après jour, mon oreille grossit de l'intérieur. Comme si elle hébergeait un petit locataire, comme un ventre qui couve, ou comme un fruit trop mûr.
Allô, oui.
Allô, papa, je te dérange pas?
Non, non, j'arrive à l'hôpital, vas-y, dis-moi.
Je t'appelle parce que j'ai un truc bizarre à l'oreille depuis quelques jours et je me demandais ce que je pouvais prendre pour que ça passe.
C'est-à-dire un truc bizarre à l'oreille?
Bah, je sais pas trop, elle grossit, ça chauffe, mais c'est pas rouge.
Et ça fait mal quand t'appuies dessus?
Non, non. Par contre, je suis très sensible au bruit, j'ai l'impression, de plus en plus.
Au bruit?
Ouais. Comme si on avait augmenté le volume de tout. Mais bon, rien de grave, hein.
Y a des écoulements?
Non, non plus.
Bon. Si ça chauffe et que c'est gonflé, tu peux prendre des anti-inflammatoires. Et pour le bruit, prends phosphorus en 9CH. 3 granules le soir. Et si ça continue, faudra aller voir un ORL.
Ok. Merci, papa. Bisous et bon courage pour ta garde. Hein. Tu mets un masque, hein.
T'inquiète pas, ça y est, j'en ai récupéré. Bisous.
Bisous.
À travers mon portable, soudain, quelque chose de strident. Je me bouche les oreilles. Et au travers me parviennent des sirènes d'ambulance et des bruits de couloirs, ceux des hôpitaux. J'en ressens les odeurs, les blouses, l'agitation précise et scientifique, les mots des diagnostics. Contre le combiné se joue dans mes oreilles le théâtre des opérations. Un vaudeville désastreux. Un bal masqué. Un fédo tragique, avec des portes qui claquent. Et pas de survivants.
Ça a été?
Ouais, c'est la zone dehors. On dirait un mauvais film de zombies.
Je sais, j'entends.
D'ici?
Ouais, je sais pas... J'entends des trucs, quoi, la nuit, parfois.
J'ai pris le journal. Il y a un article sur tes histoires d'oreilles.
Fais voir.
Quelques cas recensés dans différentes régions. Un diagnostic à prendre pour l'instant avec précaution. En attente des résultats. Une acuité auditive surdéveloppée. Pas de lien avec l'épidémie en cours. Tu vois, je savais bien que c'était pas normal.
Ils en découvrent tous les jours avec ce virus. Même si là, ils disent qu'a priori, ça n'a pas de rapport.
Qu'est-ce qu'ils en savent?
Rien, probablement. Mais c'est peut-être une otite. T'as appelé ton père?
Cette nuit, une présence m'empêche de dormir. C'est celle de l'homme en bas, assis sur le rebord du café d'en face, comme à son habitude. Il se balance d'avant en arrière, comme à son habitude. Mais cette nuit, il est là, tout contre mon oreille. Tout résonne dans cette rue désertée. Sa présence discrète fait du bruit. Celui de la solitude, celui de la détresse. J'entends le sang qui bat dans ses tempes. Le froid, la faim et ses doigts noirs de crasse. Je me réveille en sursaut. Igor dort. Il n'a rien entendu.
Bonjour, Philippe Berthier. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappelle très rapidement.
Oui, papa, c'est moi. Désolée de t'embêter encore avec ça. Tu dois être en consultation, mais ça s'arrange pas trop, mes oreilles, là. C'est de plus en plus pénible et je sais pas trop comment expliquer. Rappelle-moi quand t'as un moment. Je t'embrasse.
De nouveaux symptômes observés par le corps médical font état d'une étrange affection auditive
Igor
qui semble se répandre dans les pays touchés
Igor, viens
par le virus.
Quoi?
Viens, je te dis, il parle de mon truc à l'oreille.
Et alors, dis-toi, il y a les mollets avec le coton-tige.
N'importe quoi. Tu me prends pas au sérieux depuis le début avec cette histoire.
Mais si, t'énerve pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est juste pour que j'arrête d'écouter cet album de métal que tu t'es inventé ce truc.
Pardon ? Mais tu le vois toi aussi qu'elle est devenue énorme cette oreille, non ?
Avec ou sans ouïe supersonique, tu sais très bien que c'est le creux de ton oreille que je préfère, moi.
T'es chiant. Tu me crois pas. Mais je te jure, c'est comme si j'entendais des choses invisibles à l'œil nu. Et parfois, c'est des choses terribles.
Il faut que tu te reposes. Je te réveille toutes les nuits. C'est normal que tu sois sur les nerfs.
Ouais, je sais.
Écoute, visiblement, t'es pas la seule à avoir ce problème d'oreille. On a plusieurs cas qui arrivent ici aussi.
Ah, voilà.
Je discutais avec Guérin à l'hosto, ils font des études, là, ils savent encore si c'est lié au virus, mais ça semble bénin. C'est juste un peu perturbant. Ça ressemble à d'hyperacousie, à voir. Les spécialistes ne comprennent pas non plus. J'essaie d'en savoir plus. Allez, bonne soirée. Et embrasse Igor.
J'entends tout.
La moindre fissure.
Au début, c'était pas trop dérangeant. Les oiseaux.
J'entends les oiseaux très loin.
Ça le bruit des plantes qui poussent. Tout à droite, ça marche. Les enfants des voisins dans leur chambre.
Tous les sons qui rentrent.
C'était comme un bombardement.
Le chat du voisin quand il
marche. Le bruit des bouteilles en plastique. Dans l'océan.
Ils ne ressortent pas.
Le plus dur, c'est que dans la rue, à l'intérieur de ma tête.
J'ai monté les doses. On m'a donné des
antibiotiques. Surtout quand je dors.
Ah non, ça ne
me
plaît
pas. Ça monte, ça glace.
Moi-même, ça ne me plaît pas.
J'entendais les
bruits.
Dans ta tête,
il y avait d'autres gens.
C'est la tempête.
Salut Louise, bon décidément on n'arrive pas à se joindre, ton portable doit être sur silencieux. Écoute, je voulais te dire, je crois que j'ai chopé ton syndrome des oreilles, parce que tout le monde l'a attrapé dans le service. Bon, c'était juste pour te dire, je comprends ce que tu racontais, voilà. Tu me rappelles Louise ?
Le lendemain, c'est le monde d'après, et nous pouvons sortir. Le chantier a repris. Et on ne s'entend plus. Les marteaux-piqueurs et les disqueuses, le béton qui explose, les immeubles qui s'effondrent, les turbines des usines, les réacteurs d'avions, la combustion des carburants et les pots d'échappement, le travail à la chaîne et les étiquetages, les caisses enregistreuses, les messageries électroniques. Le monde a repris sa marche. Comme si de rien n'était.
T'es prête ?
Je sais pas. J'ai peur.
Tu veux mon casque ?
Non, non, ça va aller.
Tu sais, moi aussi, je crois que je commence à avoir mal à l'oreille.
Igor me laisse à l'entrée du métro et je m'engouffre dans ce caisson bruyant. Dans les couloirs, la résonance s'accroît. Le son devient obèse, géant et insoutenable. Au milieu de la rame, j'entends les fatigues, les épuisements, les horaires décalés, la précarité, les crédits, les menaces, les divorces, les logements insalubres, les accidents de parcours, les douleurs, les détresses qui hurlent en silence. Je vois par les oreilles toutes ces choses de très près. Tout ce qui bruisse en secret. Dans les forêts et dans les villes. Recouvert de tumultes. Tout ce qui est discret. Tout ce qui est ténu et qui ne pèse pas grand-chose face aux logiques bruyantes, brutales et gigantesques. Tous ceux qu'on n'entend pas, car le bruit est trop fort. Je suis prise d'un vertige et je me précipite hors du wagon à la station suivante. Là, sur le quai, je croise des regards qui pensent pareil que moi. Nous étions tous sortis avec nos grandes oreilles. On entendait les cris, les pleurs et les soupirs. Les sourires, les regards, les joies furtives et les grands désespoirs, les rêves et les désillusions. Toute l'humanité enfermée dans un son. Dans cette rumeur stridente, le monde entier a retenu son souffle, arrêté ses moteurs et son agitation, pour écouter cette bête tapie dans nos oreilles qui a la forme d'un bruit. Celui du verbe « penser ».
L'oreille intérieure, une fiction écrite par Héloïse Mercier, réalisée par Sophie Haute-Picon. Générique à retrouver sur franceculture.fr.
Nouvel épisode demain. C'est l'heure maintenant de la chronique de François Sureau, La Seine et vos amours. Aujourd'hui, Thomas Edward Lawrence, l'écrivain aventurier.
Nous sommes ici au kilomètre 268 de notre périple. 268 à partir de la source de la Seine, près de Dijon, un endroit qui s'appelle Source Seine. Et nous sommes exactement entre la place Vendôme et le jardin des Tuileries. Entre la place Vendôme et le jardin des Tuileries, il y a une rue qui s'appelle la rue de Castiglione. Et dans cette rue, il y avait un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Continental. Et je vais vous parler de l'Hôtel Continental, non pas parce que je suis un fanatique des grands hôtels, mais parce que j'aime beaucoup l'effet poétique qui naît de la juxtaposition du grand hôtel et de la destinée singulière d'une personne qui l'a habité et dont on ne se dit pas nécessairement qu'il était fait pour habiter ce genre d'endroit. Et dans le cas particulier, Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. L'hôtel dont je parle, le Continental, a été construit après la Commune sur les ruines du ministère des Finances. Il y a un petit texte de Théophile Gautier qui est absolument charmant où il explique qu'à l'époque, après la Commune et les incendies de la Commune, l'ancien ministère des Finances, rue de Rivoli, ressemblait à une sorte de galerie ruinée façon Hubert Robert. Par cette brèche énorme, écrit-il, on voyait des perspectives, des enchevêtrements et des superpositions d'arcades qui rappelaient le Colisée de Rome. Alors on construit là un hôtel absolument luxueux, magnifique, dans les années 1880-1890. Et cet hôtel m'a toujours fait penser à la phrase de Diderot dans Le Neveu de Rameau. On loue la vertu mais on la hait, mais on la fuit, mais elle gèle de froid. Et dans le monde, il faut avoir les pieds chauds. Eh bien, les constructeurs de cet hôtel se sont débrouillés pour qu'on ait les pieds chauds de manière invraisemblablement luxueuse. C'est une époque de kitsch. C'est une époque d'accumulation, c'est l'époque du Titanic avec ses baignoires magnifiques, avec son hammam, avec son salon oriental, et on sait sur quel iceberg l'entreprise a fini par se cracher. C'est l'époque aussi du palais du Fayel qui a été l'inventeur de l'ameublement et du crédit à la consommation pour tout le monde, qui avait érigé un gigantesque caravansérail voué aux acquisitions à crédit, quelque part au-dessus de Barbès. On en voit encore pratiquement les ruines. Et ici, c'est pareil, un hôtel gigantesque a été construit par Faustin Besson, qui comportait une dynamo de 8 tonnes qui faisait marcher 500 lampes à incandescence. Ça ressemblait moitié au Sénat et moitié à un hôtel borgne situé juste à côté qui s'appelle Chabanais. Ça avait un côté à la fois bordel et exposition universelle, avec une reconstitution de l'Alhambra, avec des miroirs, avec des palmiers, avec des fougères, une sorte de gigantesque musée Grévin. Et c'est là qu'à partir du 9 janvier 1919, à l'occasion des traités de la Victoire, Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie, a habité dans une petite chambre que j'ai été voir et qu'on ne peut pas vous montrer parce que l'hôtel est encore fermé, et qui est la chambre 98. Il accompagnait à l'époque Faisal, qui était le souverain hachémite au service duquel il s'était mis en essayant d'arbitrer tant bien que mal avec les intérêts de son pays, qui était l'Angleterre. Et c'est là qu'il a commencé à écrire ce livre immense qui est Les Sept Piliers de la Sagesse. C'est probablement là qu'il a écrit le poème dédicatoire à Daoud, qui est un poème absolument magnifique, je t'aimais, c'est pourquoi, tyran de mes mains, ces marées d'hommes, j'ai essayé de tracer ma volonté en étoile dans le ciel afin de te gagner la maison aux sept piliers, afin que tes yeux brillent pour moi le jour de notre arrivée. La mort semblait notre servante sur la route, c'est un texte absolument magnifique. Pour que notre œuvre soit complète, j'ai essayé d'ériger ce monument, il parle de son livre, en souvenir de toi. Et puis, maintenant, pour que l'œuvre soit complète, je l'ai écrasée alors qu'elle n'était pas encore finie. Et maintenant, il grouille les petits êtres pour se bricoler des masures dans l'ombre et la ruine avec le don que je te destinais. Lawrence, c'est l'aventurier énigmatique parce qu'il ne veut, disait Malraux, profondément rien. Il a été floué par les accords Sykes-Picot, il a été trahi par tout le monde, mais voulait-il réellement le royaume arabe? Voulait-il autre chose qu'une aventure personnelle? Une aventure personnelle à l'intérieur de laquelle il ne s'est véritablement jamais aimé, personne n'en saura rien. C'est une époque difficile pour lui. Son rêve de royaume arabe s'est effondré. Il habite cette chambre 98 qui est toute petite. Il n'y a pas lieu de penser que Laurence ait abusé du room service ou des facilités de l'hôtel. C'était un homme déjà extrêmement ascétique à l'époque. Ceux qui l'ont connu plus tard à Clouds Hill, c'était la petite maison qu'il avait achetée près de Bovington où il était simple soldat, raconte qu'il se nourrissait exclusivement d'amandes grillées en écoutant des disques sur son phonographe, attentif à la conversation des autres et extrêmement silencieux pour sa part. Il ne dormait jamais une nuit entière, il avait été très durement affecté par la guerre qui avait prélevé son tribut sur lui comme sur beaucoup de combattants. Il avait des cauchemars extrêmement fréquents, il avait beaucoup de mal à rouler en voiture. Et après avoir écrit le début des sept piliers de la sagesse entre ici et le petit palais que l'émir Faisal habitait avenue du Bois, eh bien il sortait dans Paris pour se distraire et il allait au cirque Medrano parce qu'il adorait le cirque, les jongleurs dont il avait été un d'une certaine manière et les animaux sauvages. Et puis ensuite il est rentré au Caire pour un bref moment pour s'y trouver assez malheureux et il s'est réfugié à Oxford, à All Souls College, où on lui a donné une chambre. J'ai eu le privilège de connaître, peu de temps avant sa mort, un vieux monsieur qui avait été un des grands spécialistes de Spinoza et aussi un des grands responsables du MI5 britannique, s'appelait Sir Stuart Hampshire, qui racontait comment il avait partagé cette chambre avec Laurence au moment où Laurence revenait de traverser ses épreuves. En juillet, il quitte Oxford, il revient ici, et c'est ici qu'il finit les sept piliers de la sagesse. Et ça sera la dernière fois que Laurence, qui à la fois avait lutté contre la France au Proche-Orient mais l'aimait, viendra dans notre pays. Au fond, une part de l'aventure de Laurence s'est peut-être nouée ici, sur les bords de la Seine, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de lui au moment où nous sommes de cette remontée de la Seine. Pourquoi ? Parce que quand il était à Oxford, il avait développé une appétence particulière pour l'étude de l'architecture médiévale et des châteaux. Les châteaux du Pays de Galles, les châteaux de Cornouailles, et puis les châteaux de Normandie, sur lesquels il avait commencé d'écrire une monographie entre les Andelys et la Roche-Guyon. Et puis c'est après cette lecture qu'il s'est intéressé, ces lectures et ces travaux, qu'il s'est intéressé au château fort de Siri, le Crac des Chevaliers, etc., dont l'architecture est la même en réalité que l'architecture de Cornouailles, est la même que l'architecture de Normandie. Et puis c'est après qu'il est resté, après avoir lu Arabia Deserta de Doughty, et qu'il s'est plongé dans cette aventure extraordinaire qui restera comme l'une des grandes aventures du XXe siècle. Il a eu une fin, au fond, après cette période qui ressemble à la fin de Rimbaud, faisant paraître les sept piliers de la sagesse, s'ensevelissant volontairement, malgré quelques amitiés glorieuses, dont celle de Churchill, dans l'anonymat de la troupe, simple soldat de l'armée de l'air d'abord, puis tankiste à Bovington, une vie extrêmement rude, qui était la vie d'un soldat de deuxième classe. Il n'avait plus rien en lui du colonel Laurence. Il avait refusé les décorations, il avait refusé d'être anobli, il avait refusé les honneurs. C'était le fils naturel de Sir Thomas Chapman, un baronnet irlandais. Et personne ne sait ce que le refus de ces honneurs signifiait exactement pour lui. Et puis il est mort de manière accidentelle, comme on sait, au volant de sa Broughton, puisqu'il adorait les motos, sur une petite route, en voulant éviter deux enfants qui roulaient à bicyclette. Il a été fauché par une voiture mystérieuse qu'on a mis un certain temps à retrouver, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur sa mort. Et il a été enterré en mai 1935 à Wareham, dans le Pays de Galles. Et sur cette tombe à Wareham, on peut lire simplement ces inscriptions qui sont à la fois ce qu'était Laurence et ce qu'il n'était absolument pas, puisqu'il y a à la fois écrit « Ici repose Thomas Edward Laurence, Fellow of All Souls College, Oxford », comme si c'était le principal titre de gloire qu'il s'était acquis à nos yeux, et en dessous une citation de l'écriture « Un jour viendra où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'ont entendu vivront pour l'éternité, une éternité à laquelle Laurence ne croyait aucunement ». Ni dans l'histoire, ni dans la foi, ni dans la littérature.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée à la mémoire du cinéma et à la conservation des bobines. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini, à la réalisation Lise Combe, à la technique Marie-Claire Oumabadi. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.